Notre pasteur qui va nous apporter aujourd'hui la première des trois prédications consacrées à une nouvelle série. Et je te laisserai le soin de nous en dire plus. Mais pour l'heure, je vais prier afin que nos cœurs soient des terreaux fertiles pour recevoir la semence de la parole. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir entendre. Entendre avec des oreilles nouvelles le message que tu nous donnes. Seigneur, ta parole n'est pas n'importe quel message, ce n'est pas n'importe quelle information. C'est une parole qui crée, c'est une parole puissante. C'est la parole qui a donné naissance à l'univers tout entier. Et aujourd'hui encore, tu nous adresses ta parole. Merci de créer en nous des cœurs dignes de ce privilège, afin que nous portions vraiment l'attention que tu mérites. Amen. Voilà.
Merci. C'est bon de pouvoir prendre la scène, ce repas auquel le Seigneur nous invite, juste avant de commencer une nouvelle série. Qui plus est, une série qui de trois messages sur trois dimanches, ce dimanche jusqu'au 26 novembre, où on parlera de l'argent. Et comment rebondir après le repas du Seigneur ? C'est une excellente manière de prendre ce repas et de se dire on annonce quelque chose. On annonce aussi le retour de Jésus, le retour de notre Seigneur et finalement le rétablissement de toutes choses selon son plan. Dans le témoignage de Laszlo, aussi dans la prière de Jonathan, on a évoqué le conflit au Moyen-Orient et je crois que bien des conflits dans notre monde ont pour racine l'argent. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre ? C'est juste, hein ? Ok, c'est bon. L'argent, voilà, c'est ça. L'argent est le problème de tous les maux. Effectivement, beaucoup de choses dans notre situation du monde, dans les choses qui ne vont pas, si on gratte un petit peu, il y a un problème lié à l'argent, à la gestion de l'argent. Et quand on prend ce repas, on annonce que Dieu rétablira toutes choses. Mais en attendant, on n'est pas passif. En attendant, Dieu nous confie... une certaine somme d'argent par notre salaire, par différents moyens. Dieu nous confie cet argent. Et puis, en attendant son retour, nous sommes appelés à le gérer finalement le mieux possible. J'avais pas prévu de commencer comme ça. Est-ce que, avec quoi vous payez les choses, avec quel matériel vous faites vos achats? Une carte bancaire, de l'argent liquide? Un petit peu tout. Je vous invite à sortir ce moyen de paiement devant vous. Ayez le bien en vue. Et maintenant, on va passer à l'offrande. Non, c'est pas vrai. Ce serait bien, Olivier, mais rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche après, hein. Là, vous avez votre moyen de paiement quotidien devant vous. Quel était votre dernier achat que vous avez fait avec ? Je vous laisse réfléchir. C'était peut-être ce matin le café pour ceux qui payent en cash. Est-ce que c'était un bon achat, selon vous ? Je ne vous demande pas de réponse forcément, parce que plus les questions ont avancé, moins j'aurais peut-être de réponses positives. Est-ce que si Jésus était à côté de vous, quand vous avez fait cet achat, est-ce qu'il aurait dit « c'est bien, je suis fier de toi » ? Autrement dit, est-ce que c'est un achat qu'on peut qualifier d'éthique ? Je vous laisse avec ces questions-là, et puis on va pouvoir aller de l'avant. Vous pouvez garder votre moyen de paiement bien en vue tout au long du message, hein, ça sera... une occasion d'ancrer ce qu'on va partager ensemble sur votre carte. Si vous avez une carte de crédit, cachez le numéro pour votre voisin. comme ça les précautions sont prises. Je vous poserai encore deux questions. Deux questions. Pour commencer, quel est le niveau de vie que j'estime juste d'avoir? Et puis la deuxième, qui n'a peut-être rien à voir avec l'économie, comment est-ce que je vis le sabbat? Je vous laisse trouver une réponse à ces questions. Je vous laisse quelques instants. Peut-être vous pouvez écrire sur votre carnet de notes ou sur votre smartphone quelques éléments de réponse. Je vous les reposerai à la fin du message, hein, donc peut-être votre réponse va évoluer en quelques minutes. Et je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Un pays d'olivier et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voilà la première partie de notre lecture ce matin. Une lecture qui est plutôt encourageante. On a la description d'un pays, pas n'importe lequel, celui de la terre promise. Et ces paroles ont été données au peuple d'Israël juste avant qu'ils entrent dans la terre promise. Ils sont à un endroit dans leur progression dans le désert où la terre promise, elle est devant. Leur entrée dans Canaan est imminente. Imaginez un petit peu l'excitation qu'il y a dans le peuple d'Israël à ce moment-là. La terre promise juste devant. Et puis après avoir lu la description, ça fait envie. Surtout qu'ils viennent de passer 40 ans dans le désert, où les conditions étaient un petit peu rudes. Imaginez un petit peu ce contraste entre 40 ans de désert et la terre promise qui est devant. Souvenez-vous, au désert, leur alimentation n'était pas aussi variée. On parle de la manne qu'ils recevaient quotidiennement de la part de Dieu. Et en plus, elle n'était pas si abondante que ça. Chaque jour, il tombait la manne qu'ils avaient besoin. Voire même deux, pour deux jours si c'était la veille du sabbat. Mais ils n'avaient pas forcément de quoi faire des provisions. Alors imaginez, ils sont dans ce mode de vie-là et tout d'un coup, il y a la terre promise qui est devant eux avec ce descriptif, avec toutes ces richesses, ces ressources naturelles, ces terres fertiles. La terre promise est une terre d'abondance. Il y a là tout ce qu'il faut pour qu'Israël se développe économiquement. Alors si cette description est encourageante, je vous invite à continuer la lecture. Et puis on verra qu'elle n'est pas sans mise en garde. Je poursuis au verset 11. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. dans les endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais attention de ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. » Ici s'arrête notre lecture. J'aime ce texte. J'aime ce texte parce qu'il... Non seulement les promesses sont encourageantes, mais les mises en garde que Dieu nous donne montrent qu'il connaît bien le cœur humain. Dieu promet au peuple d'Israël certains avantages économiques. Et ces avantages faisaient partie de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Et cette bénédiction, elle est bonne, fondamentalement bonne. Mais cette bénédiction, l'abondance de ressources, amène aussi une tentation. La tentation d'oublier Dieu. Pour Israël, il y a devant eux la terre promise, mais il y a aussi un changement de mentalité dans la gestion de l'économie. Dans la terre promise, ce ne sera plus la même mentalité, où finalement la nourriture tombait jusque-là de manière quotidienne, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. Dieu va confier par la terre promise quelque chose de plus grand, quelque chose qui a plus de valeur. C'est une gestion qui est totalement différente. Je me souviens quand j'étais enfant, genre, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense 7-8 ans, mon argent de poche était de 2 francs par semaine. Pour moi, c'était une fortune. J'avais rien à payer, mais je recevais 2 francs par semaine. Alors, qu'est-ce que je faisais avec ces 2 francs? J'étais pas un bon Suisse qui les mettait dans sa petite crousille avec une clé qu'on amène à la banque. J'ai toujours eu peur de cette crousille-là, parce que j'avais peur de perdre mon argent. Mais moi, ce que j'allais faire avec ces 2 francs, c'est que j'allais aller au kiosque, qui était pas très loin, et puis j'achetais des bonbons. Donc, je recevais mon argent tous les vendredis. Le lundi suivant, en allant à l'école, il y avait déjà plus grand-chose. J'allais acheter des bonbons. Et puis, plus je grandissais, mon argent de poche a augmenté. Mes parents m'ont donné 10 francs, 20 francs, et jusqu'à 50 francs. Mais ce n'était plus pour m'acheter des bonbons. Plus je recevais d'argent de poche, plus j'avais des choses à payer, finalement. Le prépaiement de mon téléphone portable... Et je me souviens encore qu'on raccourcissait les SMS au maximum pour éviter de payer trop. Parce que si on dépassait d'un caractère, on payait 20 centimes au lieu de 10 centimes. Sacrée époque. Mais plus je recevais d'argent, et plus j'avais des choses à gérer. C'est un petit peu ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Plus ils reçoivent, plus ils ont des choses à gérer. Et je crois que plus Dieu nous confie de ressources, de biens, et plus il y a une responsabilité pour la gestion. Et Dieu est bien conscient des enjeux quand le peuple devient prospère. Et je relève 2 éléments pour l'économie. Le premier, c'est que Dieu n'est pas opposé à une multiplication. Au contraire, la croissance économique est bonne et voulue par Dieu. On peut le voir au verset 13. « Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer. » Dieu a envie de développer. Et le deuxième élément, c'est que la prospérité risque d'amener un oubli de Dieu. Il y a ce risque d'oublier Dieu. Veille à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions. Alors ces 2 éléments me paraissent contradictoires. Je sais pas pour vous, un petit peu. Dieu qui est pour la multiplication, mais en même temps, s'il multiplie, il y a des risques. Et je vous propose des équations pour résoudre un peu ce problème. Alors, je ne suis pas doué en maths. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais si je schématise un petit peu, on voit qu'il y a des ressources suffisantes. Donc, la manne dans le désert, ressources suffisantes. On est obligé de dépendre de Dieu. Il y a une dépendance à Dieu. S'il y a des ressources abondantes, il y a le risque d'oublier Dieu. Donc, on pourrait déduire logiquement que si on a des ressources abondantes, il n'y a plus cette dépendance à Dieu. C'est le risque qu'on court. Est-ce que Dieu a vraiment voulu ça ? Pourquoi Dieu prend-il ce risque de donner des ressources abondantes à son peuple si c'est pour d'un côté, il y a vraiment ce risque qu'on l'oublie ? Alors j'aimerais résoudre ce dilemme avec vous et je vous proposerai de l'aborder en trois phases. La première, c'est la pensée de Dieu pour l'économie. La deuxième, c'est, je l'ai appelé malheureusement, la chute est passée par là. Et troisièmement, la rédemption de l'économie. Alors on pourrait faire beaucoup, très long sur chacun des points, je vais juste donner quelques impulsions. La pensée de Dieu pour l'économie. Est-ce que vous savez que dès le début de la création, Dieu a prévu une éthique économique. Le livre de la Genèse nous dit, en verset 1:28, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Remplir la terre, la soumettre et dominer la création. » C'est dans cette intention-là que Dieu a confié la terre et ses ressources à l'être humain. Et son intention était que les êtres humains gèrent tout cela en relation avec lui. On voit bien que dès l'origine, Dieu est en faveur de la multiplication. S'il invite les êtres humains à se multiplier, à se reproduire, cela implique aussi une augmentation des ressources. Plus il y a d'êtres humains, et plus il y a besoin de produire des biens matériels. Et pour ce faire, Dieu a placé une quantité incroyable de ressources sur la surface de la planète. Et ce qui est magnifique dans la manière de voir de Dieu, c'est que il n'a pas fourni équitablement toutes les régions. Certaines ont plus de bois, d'autres plus de métaux précieux, d'autres plus de charbon. On ne trouve pas toutes les ressources à un endroit précis. En fonction de la géographie, du climat, les ressources sont différentes. Et j'ose voir dans cette répartition minutieuse un petit peu l'humour de Dieu et son désir de voir les êtres humains commercer entre eux, s'échanger des ressources. Être solidaire. Ah, tu as besoin de ça. Attends, moi j'ai ça. Ça t'intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. C'est un petit peu le monde idéal, n'est-ce pas? Mais je pense que Dieu désirait qu'il y ait une relation entre les gens, que l'économie était un moyen de créer la relation entre les gens. On voit aussi que dans le plan de Dieu, la possession de ressources privées ne donne pas le droit à un usage personnel exclusif et égoïste. Dieu ne tolérait pas l'accumulation de biens au détriment d'autrui. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu à la base. En gros, ce que Dieu a prévu à la base, c'est que si on gère les biens qu'il nous donne, une bonne gestion implique un devoir envers les autres, une relation. Ce serait bien si tout le monde agissait ainsi, non? Je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Les journaux seraient peut-être un peu moins épais. Mais cet idéal a malheureusement été altéré, corrompu. J'arrive à mon deuxième point. Malheureusement, la chute est passée par là. Cet événement tragique qui se passe en Genèse 3, où Satan, le diable, le mal, se révèle à Adam et Ève et dit « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger ce fruit ?» Adam et Ève ont remis en doute la parole de Dieu et se sont arrogé le droit de décider ce qui était bien pour eux à la place de Dieu. Ils se sont accordé le pouvoir de devenir comme Dieu. Et c'est là que le mal a fait son entrée dans le monde. Notre rapport à la terre est désormais profondément déformé. L'homme gère égoïstement les ressources que Dieu confie. Au lieu d'échanges amicaux, le commerce devient un moyen de posséder toujours plus, d'avoir plus de pouvoir. L'augmentation des biens n'est plus la source de louanges ou de bénédictions qu'on peut donner à Dieu, mais finalement c'est une fin en soi. Et si on rapporte cette décadence économique à la chute, on voit que l'enjeu n'est pas seulement matériel et physique, mais aussi spirituel. L'économie, la manière dont on utilise notre carte bancaire que vous avez peut-être sur vos genoux encore en ce moment, c'est un acte spirituel. La bonne nouvelle pour l'économie, c'est que l'œuvre de rédemptrice de Dieu touche aussi cette sphère-là. Dieu a un plan de rédemption pour l'économie. Est-ce que vous savez comment commence ce plan de rédemption pour l'économie? Il y a des réponses dans le texte que nous avons lu. Verset 14. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Jusque-là, le peuple d'Israël était esclave en Égypte et en tant qu'esclave, dépossédé de terres et de ressources. Au travers de l'Exode, Dieu libère son peuple pour qu'il atteigne l'indépendance économique. Et au travers du voyage, Dieu conduit son peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et durant ce voyage, Dieu renouvelle son alliance avec son peuple. Et cette notion d'alliance est importante. C'est dans le cadre d'une alliance que Dieu désire rétablir une vision économique saine. Et nous venons de prendre le repas du Seigneur. C'est dans cette alliance que Dieu fait avec nous qu'il veut aussi nous redonner des clés pour avoir une gestion économique saine. On ne va pas forcément changer tout ce qui se passe dans le monde. Mais peut-être que dans l'alliance que Dieu a faite avec nous, il y a des clés pour qu'on puisse gérer notre argent le mieux possible. Non pas de manière parfaite, parce que notre argent s'insère dans un système beaucoup plus global, mais le mieux possible. On s'était posé la question suivante. Comment faire pour que des ressources abondantes favorisent notre dépendance à Dieu? Et Dieu a mis plusieurs choses concrètes dans ses règles, dans ses lois pour Israël, et j'en citerai deux. La première, c'est le partage de la terre. La terre, le terrain, est le premier endroit où la rédemption de l'économie commence. Alors l'économie à l'époque de l'Ancien Testament, dans l'Antiquité jusqu'à très très tard, avait pour but le logement et la nourriture. Donc c'était très difficile de ne pas avoir de terrain. Et Dieu accorde une terre à chaque famille du peuple d'Israël. On peut lire ça en Josué 13 jusqu'au chapitre 19, par là autour. C'est là où le territoire est réparti en famille. Et il y avait des lois qui garantissaient la nourriture pour chacun, même pour celles et ceux qui ne possédaient pas de terre. Le verset 10 nous a dit « Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu. » Tout le monde pouvait manger à sa faim. La famine n'est pas dans le plan de Dieu. Et je crois que s'il y a la famine dans le monde, c'est bien parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources. Alors dans ces territoires qui sont donnés, on peut se poser la question, est-ce que Dieu était marxiste? Ben non, je ne crois pas. Le problème du marxisme, c'est qu'il a dévalorisé le capital. Le capital n'avait pas de valeur. On rémunère le travail, mais on s'en fiche du capital. Dieu n'a pas dévalorisé le capital. Il y avait la possibilité d'acquérir des terres d'autres familles, d'acheter, de vendre, de prospérer économiquement, voire même de faire du profit. Alors, est-ce que Dieu était capitaliste ? Je ne le pense pas non plus. S'il y avait bel et bien la possibilité d'acquérir des terres, de faire du profit, ce profit ne durait pas plus d'une génération. Dieu a trouvé un moyen formidable pour rétablir une égalité économique. Ce moyen s'appelle le jubilé. Vous savez ce que c'est ? Alors c'est bon. Le jubilé, c'est que tous les 50 ans, les territoires étaient redonnés à la famille d'origine. Cela veut dire qu'on pouvait acquérir une terre, en tirer un profit, mais qu'après 50 ans, cette terre revenait à la famille d'origine. Le profit était possible, mais pour un moment seulement. Il y avait une durée dans le temps. Ainsi, chaque génération avait la possibilité de prospérer économiquement. La dette était effacée, on retrouvait ses terres et on pouvait à nouveau repartir de zéro. C'est comme s'il y avait un reset tous les 50 ans. Il y avait moins de soucis d'endettement aussi. Et puis, logiquement, comme la valeur du terrain diminuait à force qu'on approche du jubilé, il y avait aussi une certaine... il y avait peu de profits malhonnêtes, peu scrupuleux, finalement. Ce n'était pas forcément nécessaire d'acquérir ce terrain-là parce qu'il restait 2 ans. Cette manière de vivre l'économie implique une relation. Tous les 50 ans, certainement, que les terres revenaient, il devait y avoir un échange. Il y avait une certaine redevabilité, un échange, une relation entre les gens. L'économie n'est pas déconnectée des besoins et des vies humaines. Cette manière de vivre l'économie demande de la compassion pour l'autre. On doit tenir compte aussi de l'autre. L'économie s'insère dans un tissu de relations, de la compassion. Je vous invite à retenir ce mot, compassion. Ensuite, le deuxième moyen que Dieu a donné, c'est le sabbat. Qui parmi vous prend une journée pour faire sabbat ? Alors, c'est bien, on pourra faire une série sur le sabbat. J'allais poser la question, qui parmi vous octroie un sabbat à sa carte bancaire ? Peut-être c'est plus épineux, gardez la question au cas où. Mais le sabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Durant une journée, l'activité économique est mise en pause. La créature que nous sommes redevient dépendante de son créateur. On n'est plus dans le profit, dans le système d'acheter-vendre. On se retire pendant une journée et on redevient dépendant de notre créateur. Alors le sabbat, on l'a souvent vu comme un commandement. Mais je crois que le sabbat est un cadeau que Dieu nous donne. Je crois que le sabbat, c'est la rémunération que Dieu nous donne pour notre travail. On travaille 5, 6 jours s'il y a des choses à faire à la maison. Et je crois que le sabbat, c'est un cadeau, c'est le salaire que Dieu nous donne pour notre travail. Ne négligeons pas ce sabbat. Dans le texte, nous avons lu à 3 reprises, je ne sais pas si vous avez compté, à 3 reprises, Dieu insiste pour qu'on ne l'oublie pas. Alors comment faire concrètement ? Je crois que le sabbat est un bon moyen, un bon jalon pour ne pas oublier Dieu. Le premier mot à retenir était compassion. Le deuxième que je vous laisse, c'est sabbat. J'ai eu. Tu me laisses encore combien de temps, je crois. Je sais pas. Allez, 5 minutes. J'ai eu l'occasion de suivre un cours, une conférence avec un économiste. Il s'appelle Bruno Roche. Cet économiste était économiste en chef du groupe Mars. Donc le groupe Mars est une grande entreprise familiale qui produit beaucoup de produits agroalimentaires. C'est un des concurrents de Nestlé. Et cet homme, Bruno Roche, était économiste en chef. Et puis, quand il nous racontait un petit peu son parcours, et puis, au début de son mandat de travail, on lui a posé la question suivante. Quel profit est-ce qu'on doit faire? Alors, imaginez-le, voilà. Il y a de l'enjeu, hein, il est économiste en chef. Le CEO lui demande quel profit est-ce qu'on doit faire? Et dans une société capitaliste, la réponse évidente, c'est dire le maximum. Alors lui, il s'est dit, il est chrétien, il s'est dit, ben voilà, je repars avec cette question, et puis j'y réfléchis et je viendrai vers vous avec une réponse. Il a pris quelques jours, il est revenu avec sa réponse, et la réponse était la suivante. Il ne faut pas se poser la question de quel est le profit qu'on doit faire, mais quel est le vrai profit? Quel est le juste profit? Et pour accompagner sa réponse, il a dit, ce qu'il faut faire, c'est accorder 3 sabbats. Le sabbat de l'homme, le sabbat du capital et le sabbat de la terre. Voilà. 3 sabbats. Si on a ça, si on octroie ça, on peut faire du profit. Mais le profit ne prend pas le dessus sur le sabbat. J'ai trouvé intéressant qu'il nous parle de sabbat. Un homme qui dirige une grande entreprise avec des milliards de chiffres d'affaires qui nous parle de sabbat. Le sabbat de la terre. La terre a besoin aussi de se reposer. Le sabbat humain, comment est-ce que les employés peuvent vivre leur sabbat? Est-ce qu'on va leur demander toujours plus? Le sabbat du capital, est-ce que je veux faire reposer aussi mon argent? Est-ce qu'il a besoin de toujours travailler? J'aimerais considérer un petit peu ces 3 sabbats. Et puis vous encourager à regarder, baisser vos yeux sur votre carte bancaire et à vous dire, mais comment est-ce que je vis finalement une juste économie? Cette question que je vous ai posée avant. Oula. Quel est le niveau de vie que j'estime juste d'avoir? Est-ce que le niveau de vie que j'estime juste, c'est dépenser sans réfléchir? Est-ce que si j'ai besoin d'un nouveau jeans, est-ce que je vais me dire, mais est-ce que je vais tenir compte de l'Indonésien au bout de la chaîne ou pas? Est-ce que je vais peut-être être prêt à mettre un peu plus pour un habit où je sais que celui qui l'a fabriqué reçoit un salaire juste? Est-ce que je suis prêt à renoncer à tel produit parce que ça fait du dégât sur l'environnement? Quel est le niveau que j'estime juste d'avoir? C'est pas forcément en quantité, mais c'est en comportement. Et cette question du sabbat me paraît essentielle et je vous la repose. Comment est-ce que je vis le sabbat? Et comment, je vais rajouter, ma carte bancaire vit le sabbat? Et finalement, une question bonus, c'est est-ce que ma manière de dépenser respecte la compassion et le sabbat. Je vous laisse réfléchir à ces questions. Jonathan, tu pourras reprendre dans un moment.
Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ton Dieu. Merci, Johan, pour ce premier message dans cette série.